Main d'or.
Main d'or.
Main d'or.
Main d'or. Main d'or.
Main d'or dans les Bartas.
Très jeune, j'ai commencé à travailler avec mes mains.
Des artisans qui utilisent leur territoire pour concevoir.
J'ai récupéré beaucoup de bois. Là, j'ai beaucoup de bois qui ne me serviront jamais.
J'ai travaillé le bois, le métal, la céramique.
Une émission proposée par
Habitat Durable en Cévennes
et En Chemin.
Pour donner un motif qui soit récurrent, un peu géométrique, je vais le tremper dans un acide.
À écouter sur Radio Bartas.
Je me suis dit, tiens, ça, je pourrais le faire autrement ou quoi que ce soit.
Cette quatrième émission, Florian et Tom vont à la rencontre d'Anthony Lagarde, potier à Saint-Étienne du Val-d'Oise.
Bonjour Anthony.
Eh ben, bonjour Florian, bonjour Tom.
Bonjour.
Alors Anthony, Lagarde, c'est ça ?
C'est ça.
Tu vis et tu travailles à Saint-Étienne du Val-d'Oise.
C'est ça, à Saint-Étienne du Val-d'Oise, dans la petite vallée entre Mende et Florac. Le Val-d'Oise qui est la vallée des dieux.
Alors, ton atelier, comment ça se passe? Tu fais quoi, en fait?
Donc, je suis potier et même céramiste, parce que céramiste, ça inclut aussi toute la partie riche du travail, en fait, qui va de la fabrication, le travail de l'argile, de la terre, jusqu'après le travail sur l'émail, donc la recherche et la cuisson. Et après, bon, tout le reste qui est après d'aller vendre ses pots.
Ton atelier, il a un nom particulier?
Ouais, ça s'appelle la poterie du sens.
Et ça fait combien de temps que ça existe?
Alors moi, je suis arrivé en 2008, alors l'année où il est tombé 60 cm de neige le 12 décembre.
Une bonne année alors?
C'est une bonne année, ouais.
Ok, et tu as débuté ton activité directement ou comment ça s'est passé?
Alors moi j'ai commencé en fait par un CAP, voilà. Et un CAP que j'ai passé dans le département de l'Hérault, à Saint-Jean-de-Fosse exactement, dans un petit village où il y a une tradition de poterie depuis le 14e siècle.
Alors dans quel village? Saint-Jean-de-Fosse.
Saint-Jean-de-Fosse, ouais.
D'accord.
Alors pour situer, souvent on ne connaît pas Saint-Jean-de-Fosse. Les gens connaissent des fois le Pont du Diable et connaissent surtout Saint-Guilhem-le-Désert qui est tout juste à côté de Saint-Jean-de-Fosse. Voilà, c'est vraiment dans la vallée de l'Hérault.
Alors donc Anthony, t'as fait ton CAP et après t'es parti pour faire du carrelage artisanal.
C'est-à-dire que je le faisais déjà dans le cadre de mon apprentissage. Et puis quand mon apprentissage s'est terminé, le patron pour qui je travaillais m'a proposé de reprendre en fait cette petite activité. Mmh. Donc c'était surtout du carrelage, une partie qui était assez intéressante. C'était quelque chose qui était vraiment traditionnel là-bas. Là-bas, se faisait encore les gouttières avec les tuyaux de. C'est chiant. Hein.
Et le languin, c'est.
Ouais.
Les gouttières, les tuyaux de gouttières, tout ça en céramique, émaillé, quoi.
Ouais, bah y en a un peu à Florac, peut-être même, de ce genre de. Je crois qu'on en a vu dans certains.
Je sais qu'à Florac, il y a quelques. Ouais, il y a des tuyaux. Après, j'ai vu qu'il y avait des. Sur la. Je crois que c'est le resto qui est au bord du.
Au bord de la source du Tarn.
Voilà.
Source du Péché.
Quand on redescend de la place de la mairie, ensuite, quand on est au bord de l'eau, il y a une maison qui est les pieds dans l'eau, sur le petit pont, et de cette maison, elle a une gouttière qui est en céramique. Ouais.
Mais elle a également le toit qui est en tuiles écailles vernissées. Ouais.
Et donc maintenant, tu es céramiste. Alors qu'est-ce que...
Mais j'ai pas, en fait, j'ai pas arrêté de l'être depuis que j'ai fait mon apprentissage. C'est juste qu'après, après j'ai travaillé encore 2 ans comme ça à mon compte. Mmh. Mais bon, je travaillais surtout pour, en fait, je travaillais surtout pour d'autres ateliers qui eux revendaient toute cette partie-là, tout ce qui était carrelage. Mmh. Et tout ce qui était gouttière, tuiles, écailles, tout ça. Et puis en fait, on a eu un gros changement de vie par le travail de ma copine, et on s'est installé en Lozère. De temps en temps, on montait les week-ends, se faire des petites randos sur le Mont Lozère. À chaque fois, on partait du côté de Saint-Jean-de-Fosse, mois de septembre. On partait en t-shirt, on arrivait et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est des fois presque neigeait, quoi, dans la tourmente. Et j'exagère quand même en septembre.
Et donc, c'est là où tu as décidé de construire un four à bois pour cuire tes pièces, c'est ça?
C'est après, ouais, non, c'est longtemps après.
D'accord, donc parce que là, donc on est devant un four à bois assez impressionnant qui cuit combien de pièces en ce moment?
Eh ben, c'est un four qui fait à peu près 1,5 m. Et du coup, en nombre de pièces, pour être sincère avec toi, je compte pas le nombre de pièces que je mets.
Donc c'est en volume, quoi.
C'est en volume. Après, c'est un peu comme en Lozère, tu sais, en Lozère on compte pas en kilomètres, on compte en temps. Là c'est pareil, je compte pas en pièces, je compte en temps. Je sais qu'il faut à peu près un mois de travail à l'atelier pour remplir le four.
Combien de temps de cuisson alors pour achever ce travail?
Et donc la cuisson elle dure aux alentours de 24 heures, on va dire. Voilà, elle fait un tour d'horloge, même 2 tours d'horloge.
Alors, une des spécificités d'Anthony, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il cuit ses pièces dans ce grand four à bois. Donc, tu cuis absolument rien à l'électrique, c'est ça?
Non, j'utilise l'électricité pour les ampoules et pour tourner. Mais non, pas d'électricité pour le four.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? On entend du crépitement?
Et bien là, il se passe qu'on est à 900 degrés et que le bois, le four prend déjà un autre rythme et que le bois, du coup, crépite bien, qu'on entend bien. On entend que ça crépite. Voilà, la montée en température se fait un petit peu.
Donc là, on est à combien de degrés?
Du coup, 900.
900 degrés.
Avec un objectif de 1300 degrés, donc il y en a encore. Un petit paquet d'heures, quoi.
Ouais, là en plus on est encore dans la partie qu'on appelle le petit feu. En fait souvent sur une cuisson il y a 3 étapes. Il y a le bassinage que certains aussi appellent le reçuage. En fait on maintient une température inférieure à 300 degrés pendant plusieurs heures pour sécher en fait toute l'humidité qu'il peut y avoir dans le four et encore qui reste dans les pièces. Mmh. Ensuite on attaque le petit feu jusqu'à 1000 degrés. Et après, on attaque sérieusement, c'est le grand feu. Et là, c'est vraiment un parcours du combattant. Mais parfois, faut vraiment lutter, être vraiment concentré. Parce que il faut vraiment écouter le four, suivre un rythme au niveau du chargement du bois.
Avec la fatigue en plus, j'imagine, qui s'accumule.
Et voilà, c'est là où c'est mal fait. C'est que souvent, c'est à la fin qu'il faut... avoir le maximum de concentration et être en plein possession de ses moyens.
Non, pas dans du travail artisanal, quoi, là. Pas de doute.
Ça s'entend.
C'est ça. C'est le feu qui travaille aussi. Donc. I wanna live.
searching for a heart.
Alors, qu'est-ce qui t'a conduit vers ce mode de cuisson ?
Alors, le mode de cuisson, le feu, c'est déjà quelque chose de. On pourrait parler des heures sur le feu, mais c'est quelque chose de. Je vais pas. Si je dis magique, c'est vraiment pour dire, pour donner un synonyme, mais c'est pas ça. C'est plus que ça, le feu, c'est une énergie brute. Et pour cuire, avant tous les ateliers, tous les potiers, tous les céramistes travaillaient exclusivement avec le feu de bois parce qu'ils avaient que ça. Après, ils sont passés au charbon. Mais voilà, c'est un petit peu l'origine. Et puis ça rajoute vraiment quelque chose aux pièces. Et moi, j'ai toujours été passionné par ce mode de cuisson. Et voilà, ça a été, quand je suis arrivé en Lozère, ça a été l'occasion justement de pouvoir construire un vrai four avec lequel pouvoir vraiment travailler plus sérieusement.
Parce que tu l'as construit toi-même, c'est ça ?
Voilà, ouais, c'est. Si les gens ont déjà joué au Lego, c'est pas plus compliqué que de jouer au Lego. Bon, mis à part qu'il n'y a pas les petits. Mis à part que ça s'emboîte pas comme des Lego, sinon ça se. Voilà. C'est pas inaccessible à fabriquer.
Et une cuisson, ça dure combien de temps alors ?
Donc la cuisson dure entre 24 heures et. Dure à peu près 24 heures.
Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à partir de quoi tu fais tes émaux ? Comment t'arrives à ce que tu veux et quelle est ta démarche ?
Alors justement, là, c'est la partie de l'émail, on en parlait tout à l'heure avec justement le terme de céramiste, mais c'est vrai que l'émail, c'est encore un autre domaine. C'est pas, parce que quand on façonne les pièces, là on travaille vraiment de la matière en trois dimensions, puisqu'on travaille sur le tour, on travaille du volume. L'émail, c'est tout à fait autre chose, c'est une matière qui est presque. C'est une matière dans laquelle il faut se projeter parce que on travaille une matière qui est sèche, c'est des minéraux. Et c'est des minéraux qu'on va porter jusqu'à fusion et d'arriver à en faire un verre. Alors VE, 2RE, vraiment la matière verte. Donc on n'est plus vraiment potier, là on se retrouve un petit peu entre le. On a un pied toujours dans la céramique, mais on a un autre pied dans la verrerie.
Parce que l'émail, c'est ce qui entoure les pièces, c'est ce qu'il y a sur les pièces.
Voilà, c'est ce qu'on.
ce qui est lisse, qui donne une certain aspect, une couleur, une texture.
C'est ça. Pour, je vais utiliser une petite métaphore pâtissière. C'est l'émail, c'est comme par exemple sur un éclair au chocolat. C'est la petite, le petit nappage chocolat qu'il y a sur l'éclair au chocolat. Voilà, en céramique, voilà, c'est l'émail, c'est vraiment ce qu'on rajoute dessus. C'est un verre. C'est un verre parce que c'est la matière verre. Et voilà, c'est ce qu'on rajoute par-dessus. Alors ça quand même, ça apporte plein de qualités à la céramique parce que ça lui apporte un toucher, ça lui apporte une esthétique, ça lui apporte, ça apporte des. Après au niveau de l'esthétique, on pourrait parler de tout ce qui est au niveau brillance, matité, profondeur, les couleurs. Enfin, c'est vraiment encore un autre domaine. Et puis, alors, pour donner aussi une, on va rester dans les métaphores pâtissières. Parce que pour représenter un petit peu ce que c'est que l'émail, c'est comme faire un caramel, si on veut. Parce que quand pour faire un caramel, tout le monde a déjà fait, enfin, tout le monde sait comment ça fonctionne un caramel. Et puis tout le monde peut essayer de le faire après avoir écouté cette émission. Il suffit de mettre un peu de sucre en poudre dans une casserole, le faire chauffer suffisamment longtemps et on va voir le sucre qui va passer par plein de d'étapes. Il va commencer à bouillonner, il va commencer à se ramollir, après il va se napper et donner vraiment une matière tout à fait fondue, fusionnée, un petit peu couleur caramel, et c'est le caramel. Et en céramique, on travaille pour l'émail, on travaille donc que des minéraux. Les minéraux, ça va être des sous forme de poudre. Là, quand je parle de poudre, on va comparer ça à de la farine pour donner une texture. Mais c'est voilà, faut s'imaginer que c'est du minéral qui est broyé. Et qu'on va mélanger avec on va mélanger plusieurs minéraux, et tout ça mélangé avec de l'eau, c'est ce qu'on va poser sur les pièces, et qui à la température à laquelle ces minéraux vont fusionner va former un verre et qui va former l'émail. Et après toujours pour parler de l'émail, notamment dans ce qui se passe dans la cuisson au bois, surtout donc là des températures en 2300 degrés, c'est qu'en fait les cendres du bois, les cendres qui sont la partie végétale qui sont la partie minérale du végétal justement, et ben ces cendres là, elles vont à partir de 1250 degrés vont fusionner en se posant sur les peaux. À cette température de 1250 degrés, vont fusionner et former un verre totalement aléatoire. Et à partir de cette observation-là, on s'est mis à développer ce qu'on appelle les émaux de cendre, qui sont des émaux qu'on fabrique à partir de cendres. Mais c'est-à-dire que là, au lieu que les cendres se posent un petit peu de manière aléatoire dans le four, sur les pièces, là, on va récupérer la cendre. Alors il y a un petit peu de travail pour enlever tous les petits morceaux de charbon, pour enlever tout ce qui est aussi la partie soluble qui est dans la cendre. Donc on va laver la cendre, la tamiser, la sécher. Une fois qu'elle est sèche, on va pouvoir l'utiliser pour composer des émaux.
Là, on peut utiliser tous les bois.
On peut utiliser tous les bois. En fait, chaque arbre, chaque plante c'est un petit peu comme son code génétique, c'est sa composition. La composition de la cendre va changer d'une essence à une autre. Merci Thomas.
Toi, tu utilises principalement quelles essences ?
Alors après, c'est vrai que ça peut.
Un secret ou...
Non, pas du tout. Non, je vais dire pourquoi il n'y a pas de secret. C'est que c'est vrai qu'au début, quand on se met à s'imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces cendres différentes, y a même des céramistes qui se sont mis à cramer des quantités d'orchidées pour faire de la cendre d'orchidées et pour faire de l'émail avec de la cendre d'orchidée.
Mais... Heureusement qu'ils n'habitent pas dans le parc national des Cévennes.
Non, mais pareil, c'est pour donner un exemple. Mais en sachant, après, en sachant que si on parle pour le bois, par exemple, 100 kilos de bois va donner 1 kilo de cendre. Voilà, pour la cendre, en fait...
Alors oui, quelle cendre tu utilises, voilà. Au final, quelle essence?
Comme il faut des grosses quantités, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise la cendre, je récupère de la cendre qui vient des cheminées, des poêles, voilà, du chauffage, et je fais un stock, une fois que j'ai une grosse quantité, donc je prépare la cendre, je la teste ensuite à la cuisson pour à peu près connaître de manière un petit peu... empirique sa composition, l'émail que je vais faire avec cette cendre, et après une fois que j'ai mis au point ma recette, voilà,
c'est parti. Donc il faut tout un hiver de cheminée pour arriver à des beaux émaux.
Tout le monde m'aide pour ça. Je suis parfois obligé de refuser de la cendre parce que quand tout le monde me ramène, des fois je me retrouve avec des stocks, j'arrive même plus à les stocker. Alors si on veut, on va parler un petit peu du travail d'un céramiste qui a fait un gros travail sur les émaux de cendre. C'est un peu un pape, hein, dans la céramique. C'est Daniel de Montmolin, qui est toujours vivant, mais qui a un âge un petit peu avancé, quoi. Et lui, il a voué sa vie au travail sur les cendres et sur les émaux de grès. Et il en a surtout partagé tous les fruits de ses recherches, et donc on lui doit énormément de choses par rapport à ça. Et il a aidé à une classification, en fait, des cendres. Et tout ce qui est cendre de bois vont donner des cendres qui sont plutôt basiques, c'est-à-dire avec plutôt riches en calcium et en oxyde basique. Attention, là, on entame la partie technique du reportage. Et tout ce qui est végétaux, c'est-à-dire plutôt le foin, le blé, donc la paille, le maïs, toutes ces choses-là, la fougère aussi, toutes ces plantes qui sont un petit peu, donnent des cendres qui sont siliceuses, donc acides.
Alors, a posteriori, en parlant de Daniel de Montmorin, on a essayé de regarder sur Internet si on ne trouvait pas des extraits de cet homme qui apparemment est célèbre dans le milieu de la poterie. Et on a trouvé un discours qu'il a prononcé à l'occasion d'un vernissage qui s'intitule « À chacun sa créativité ». On vous laisse écouter.
J'ai pas du tout envie de vous faire un discours. Comme il fait beau temps, j'aurais plutôt envie d'aller vous promener, vous conduire dans une série d'endroits qui me sont très chers, qui s'appellent Igé, Sainte-Cécile, Volon, Diou, Saint-Martin-Belle-Roche, Buxy et autres endroits. C'est tous ces endroits qui m'ont valu des récoltes de matières premières et qui m'ont ouvert toutes mes recherches au niveau céramique. Vous savez peut-être que, en tout cas c'est ce qu'on dit, que la France est le résumé de la géologie de l'Europe. Qu'à la Bourgogne, c'est le résumé de la géologie de la France. Et pour ma part, je crois que je peux dire que le Clunisois est en tout cas pour moi le résumé de la géologie de la Bourgogne. C'est un immense privilège pour un potier qui travaille à haute température, de trouver autour de lui, lors de ses promenades, les minéraux, presque tous les minéraux qui sont nécessaires à son travail. Il y a les argiles de Bollon, de Diou, il y a les feldspaths de Saint-Quentin, il y a la silice de Bourgeuil, tous des noms que vous connaissez. qui font partie de cette nature qui est offerte au potier pour qu'il puisse exercer son travail. La nature, c'est la première source. La première source de la créativité du potier. Elle lui donne à la fois des minéraux et puis des lois qui vont permettre la fusion de ces minéraux. Mais bien sûr, cette nature, elle est pour le potier au début comme un livre fermé qu'il va falloir ouvrir, qu'il va falloir feuilleter. Donc le potier est astreint, ce qu'il fait volontiers, à une prise de connaissance de tout ce que la nature lui offre.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world.
qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire ces cuissons au feu de bois? Je reviens là-dessus parce que est-ce que c'est quelque chose d'historique, est-ce que c'est quelque chose d'esthétique, enfin, ou une démarche personnelle, quelque chose qui t'attire ou des rencontres?
Ben c'est un peu tout ça en fait, parce que c'est des rencontres aussi, parce que quand j'ai passé mon CAP, on était une petite troupe de passionnés de céramique, et on a tout de suite commencé à faire des petits fours à bois un petit peu rudimentaires à droite à gauche. Et puis c'est comme ça que j'ai un peu appris à aimer cuire au bois, et puis après surtout cet aspect quand même, cette touche que le bois donne aux pièces, parce que ça crée des belles matières, ça fait aussi des beaux émaux. Et puis ça a été aussi, quand je suis arrivé en Lozère, déjà je bénéficiais d'un endroit pour travailler sur lequel j'avais la place de construire un four.
Mais il faut quand même une certaine place, quoi, l'atelier est grand.
Il faut un peu de place pour construire un four, parce que du coup c'est quand même avec les briques, les briques elles font à peu près 3-4 kilos chacune, donc quand on a aux alentours de 1000 briques, on a déjà un petit poids. Donc une fois que c'est posé, il faut quand même. Et puis aussi parce que voilà, ça s'imposait au niveau du choix d'une énergie qui était locale et qui était ici, qui n'était pas valorisée, parce que moi je cuis essentiellement avec du déchet de scierie. Après quand j'ai du temps, puis j'en ai fait beaucoup au début des premières cuissons, c'était essentiellement du nettoyage de forêt. Moi j'ai pas besoin d'un bois pour faire des planches
de charpente, voilà. Ouais.
Moi j'utilise plutôt les déchets qui sont ce qu'on appelle les croûtes, j'ai oublié le mot en patois, mais on me l'a dit il y a pas longtemps. Mais voilà, c'est toutes les parties de l'aubier qu'on enlève, qui sont pas utilisées pour la menuiserie ou pour le bois d'œuvre. Voilà, c'est qui convient parfaitement pour la cuisson. Et puis même sur le secteur de Saint-Étienne, j'ai récupéré pas mal de bois de forêt qui était vraiment du bois mort, du bois voilà qui. Donc c'est un bois qui n'est pas valorisé, qui peut encore servir. Voilà, et puis c'est vrai que... Bah après, moi, dans ma démarche de travail, ce qui importe beaucoup, justement, c'est... Alors, d'habitude, quand je dis que ça s'appelle la poterie du sens, je m'attends toujours à ce qu'on me demande, mais pourquoi la poterie du sens? Mais parce que pour moi, le sens de... C'est pas un reproche que je te fais.
Non, mais pas de problème.
C'est que voilà, le sens est quand même très important. Et puis, moi, ce qui m'importe beaucoup dans le fait de fabriquer, c'est comment c'est fabriqué. Voilà, comment c'est fabriqué.
Donc donner du sens un peu à la poterie, quoi. L'objet qui en résulte.
Voilà, mais voilà, c'est tout le processus qui est derrière, c'est-à-dire moi dans ma production, au niveau de l'émail, j'utilise que des minéraux qui sont très sains. J'utilise aucun minéraux qui sont toxiques, c'est du feldspath, c'est du kaolin, c'est de la silice. J'utilise aussi une pierre qui vient du Kos, qui vient de Chanac. Qui vient de la carrière de Chanac, voilà, de Dolomie.
D'accord.
Et c'est une carrière qui est comment dire, où le personnel est super sympa. D'ailleurs, si vous avez... j'ai pas envoyé du monde à la carrière, mais ouais. Voilà, c'est la personne qui.
Mais tu peux arriver de la carrière directement à retirer le minéral. C'est assez pur pour.
Voilà, en fait, ils utilisent la dolomie. Elle est extraite. Ensuite, elle est broyée et après, elle est utilisée beaucoup pour les verriers, pour l'industrie verrière. Et elle est aussi utilisée en céramique. Moi, cette dolomie, j'utilise pour mes émaux. Et puis après, voilà, tout le travail que...
Ça donne quoi comme couleur, la dolomie?
Alors la dolomie, ça donne pas une couleur, ça donne plutôt un aspect à l'émail. Ça va le rendre un peu plus mat, et ça lui donne aussi un toucher plus satiné, voilà. Ouais. Mais après, voilà.
Donc c'est toute une alchimie, quoi. Il faut
faire énormément de choses avec la dolomie en émail. Moi, voilà, j'utilise sur des émaux comme ça. C'est aussi par exemple la dolomie, je vais l'utiliser aussi pour obtenir des bleutés à l'aide du fer.
Est-ce que cette cuisson avec de la cendre comme émail, c'est quelque chose qui était utilisé de tout temps, ou c'est quelque chose qui a été découvert récemment?
Non, ça n'a pas été utilisé de tout temps. Je pense que ça a été... On tient surtout ça de l'Orient, mais de l'Orient, Chine, Japon, Corée, qui ont une grande culture céramique, et surtout une culture céramique. Quand je fais une distinction des hautes températures, c'est parce qu'il se passe pas du tout les mêmes choses dans le four, en fait. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont une grande culture de la céramique qui est cuit à 1200-1300 degrés. C'est des températures justement où donc les cendres du bois fusionnaient. C'est par cette observation-là qu'ils ont mis au point aussi des émaux de cendres.
Donc on ne monte pas à cette température par hasard.
Non, c'est vrai que c'est une température pour donner une idée. Ils étaient... au niveau céramique, donc toute cette partie de l'Orient, toute cette partie de l'Asie, ils avaient à peu près 2000 ans d'avance sur le reste du monde.
Dans un monde industrialisé, mondialisé, qu'est-ce que tu te trouves comme petite place en tant qu'artisan au désert?
Eh ben, le peu de place que le monde industrialisé, enfin désindustrialisé un petit peu maintenant, mais enfin qui s'industrialise plutôt dans des pays chinois ou indiens ou dans des endroits comme ça, mais bah déjà la place. La place que je peux prétendre prendre, et ouais, que je pense qu'il faut un petit peu se révolter contre la loi de l'offre et de la demande, parce que souvent elle impose, en fait, souvent c'est que des petits phénomènes de mode qui vont passer, qui sont un peu éphémères, et qui font faire des mauvais choix au niveau de comment on va utiliser, sur ce qu'on va fabriquer. Je vais parler juste d'un truc, par exemple, je parlais de la céramique parce que c'est un petit peu la partie que je connais le plus, mais par exemple, à une époque, c'était la mode du rouge. Tu voyais partout, il fallait un rouge pétard, tu vois, et tout le monde s'est mis à faire du rouge, et puis aussi les fournisseurs les gens qui vendent les fournitures et les matières premières aux potiers, aux céramistes, ils se sont mis à proposer des émaux rouges comme ça, pétards, au plomb et au cadmium. Faut savoir que le cadmium, ça fait partie de ces métaux qui sont des métaux lourds, qui sont très toxiques. Qui sont toxiques à tous les stades, hein. C'est-à-dire que souvent c'était des mines qui étaient ouvertes au Chili, surtout en Amérique du Sud, où il y avait beaucoup de cadmium. Donc je veux dire, pour le gars qui était dans sa mine, pour le Chilien qui extrayait le cadmium, je veux dire, à respirer, c'était toxique. Tout ce qui après retourne dans la nature, ensuite après on réutilisait dans des ateliers, tout ça pour un phénomène de mode.
Pour des pots qui finalement, vu que c'est un phénomène de mode, vont être jetés avec le cadmium qui est dedans.
C'est ça le problème. Avec la loi de l'offre et de la demande. Et je pense que du coup aujourd'hui, voilà, on est un petit peu quand même petit à petit, ça, toutes ces questions, elles arrivent un petit peu, elles pénètrent la société, et puis Par exemple, on peut faire des choses très très esthétiques. Il suffit de avec des matériaux qui sont pas du tout toxiques et qu'on a autour de nous où la ressource n'est pas en danger et tout ça c'est encore possible de le faire aujourd'hui.
Et finalement, un exemple anecdotique mais pas si anecdotique que ça quoi. Quand on prend en compte la filière de A à Z, c'est vrai qu'on se rend compte de plein de choses quoi.
Ok.
Ça crépite.
Et puis après, je trouve qu'encore en Cévennes et en Lozère, on va dire, parce que je vais parler de ce qu'il y a autour, mais je trouve qu'il y a une dynamique qui est vraiment intéressante ces derniers temps, parce qu'il y a des gens qui se sont installés, qui ont eu vraiment le désir d'installer leur atelier pour créer quelque chose. Pour une création dans l'artisanat. Mmh. Et je trouve que c'est des gens qui ont une vision très contemporaine en fait de l'artisanat, parce que c'est des petites productions qui veulent montrer un petit peu que c'est encore possible de fabriquer, même à petite échelle, même tout petit, c'est encore possible de fabriquer des choses. Mmh. qu'on peut en plus faire des choix, puisqu'en fait on est des petits ateliers, des petites productions, on peut faire des choix, que ce soit sur les matériaux qu'on va utiliser, de la manière dont on va travailler, et puis après aussi de la manière dont on va vendre. Et c'est des choix en fait qui sont peut-être un peu plus d'actualité avec au niveau de l'environnement, au niveau de des matériaux sains.
Rapport aussi à la transmission, une possibilité d'être sur un territoire et à un moment donné de parler de ce qu'on fait, de pouvoir transmettre pendant des ateliers.
Ça, ouais, j'en pratique un petit peu dans le village avec le foyer rural où on a un petit atelier qui est pour le moment faute de temps qui accueille que des adultes, mais. Et ça aussi c'est sympa parce que ça permet quand même de partager
et puis permettre à des gens d'expérimenter eux-mêmes, de voir la matière se travaille pas toute seule quoi.
Puis de découvrir parce que souvent il y a des métiers artisanaux comme la céramique. À force d'être justement dans ce monde un petit peu où on voit que la technologie qu'on comprend pas toujours, mais on sait l'utiliser, mais on la comprend pas. Mais par contre, il y a plein de métiers comme ça, de l'artisanat, qu'on peut pratiquer, qu'on peut comprendre. Et surtout qu'on peut pratiquer, en fait. Mmh. Et je trouve que pratiquer, c'est quand même quelque chose qui est important pour l'être humain. Surtout de pas oublier toutes ces choses-là, quoi. Et puis ouais, pour revenir à cette histoire aussi de ces petits ateliers, je pense que les petits artisans peuvent aussi faire un petit peu, apporter un petit peu apporter ce que les petits paysans ont apporté à l'agriculture biologique, c'est-à-dire d'avoir de s'être un petit peu eux investi là-dedans, d'en vouloir refaire une agriculture un peu plus propre, un peu plus respectueuse sur pas mal de questions, qui est pas que le facteur argent, que le facteur capital, et en tout cas moi c'est ma sensibilité dans mon travail et je trouve qu'il y a quelque chose qui peut se passer de ce côté-là quoi.
Un petit colibri artisan quoi.
Pourquoi pas, ouais. Après au niveau des artisans, tout est un peu à faire parce que c'est vrai que depuis 50 ans rien n'a changé parce que j'étais pas né, mais j'ai l'impression que c'est des métiers quand même qui sont assez traditionnels quoi. Enfin je veux dire, il n'y a pas eu à part ceux qui se sont orientés sur le design ou qui ont suivi l'art contemporain, c'est pas des métiers qui ont énormément évolué, qui ont subi un petit peu Ben, quand il y a eu, quand il y a commencé à y avoir un peu la crise pour tout le monde, c'est sûr que même les petits artisans, les petits ateliers, ils ont été touchés. Et je pense, du coup, voilà, c'est l'occasion aussi de peut-être nous réinventer, quoi. Et puis de nous réinventer.
Ok, ben merci Anthony. Et où est-ce qu'on peut trouver tes pièces?
Alors on peut me trouver en gros tous les jours de la semaine à Mende, à la Maison des Paysans de Lozère, qui est une petite boutique de producteurs qui s'est ouverte il y a 2-3 ans sur Mende. Elle est située place René Estoupe, c'est vraiment dans le centre-ville. Et puis on tient à rester dans le centre-ville. Et puis voilà, après
à Florac peut-être,
ouais. À Florac, il y a la boutique Octopus. Et à Saint-Enimy également. Pas dans toute la Lozère, mais et puis je travaille depuis pas longtemps avec la Biocoop de Mende, ouais. Parce que du coup
vraiment, finalement artisanat et alimentation dans la même boutique.
Ben ouais, mais ça va ensemble. Après
le contenu, le contenant,
ouais. Puis surtout la céramique, la terre, c'est un super matériau pour cuisiner.
Bien. Ben, merci.
Sur ces mots, merci. Et puis bonne fin de cuisson.
Ouais, bon courage.
Ouais, on va essayer.
Retrouvez les photos et comment contacter les artisans sur habitat au pluriel tiré du milieu durable au pluriel .org.
C'était Main d'or dans les Bartas, une émission mensuelle à écouter le dimanche à 10h en semaine paire ou le vendredi à 18h en semaine impaire. Ou sur www.radiobartas.net.